Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. On est ensemble jusqu'à la demi avec une visite de l'abbaye de Beaulieu. Visite non pas sous le thème des animations pour tout public qui sont proposées pour ces vacances, ni même sous le thème de la collection d'œuvres modernes littéralement époustouflantes qui sont à découvrir, mais bien à propos d'architecture pour la deuxième partie de ce mag. En première partie, on ira à Saint-Antonin, à Bazart, cette grande maison qui accueille des salles d'exposition, un café associatif, une friperie chic, mais aussi des artistes qui y ont leur atelier, un atelier de sérigraphie, des illustratrices et une maître verrier. On découvrira son atelier après la musique dans ce mag.
Est-ce l'envie ou est-ce ton corps? Est-ce notre vie qui fait que ça dure encore? Est-ce ton bonheur ou est-ce mon honneur qui me tient prisonnier ou qui me fait geler? Chaque jour où le manque d'amour est seul amour, étrange amour, est-ce la douceur de tes caresses, mon cœur? Une dure limite, un mur d'amour. Sur ses gardes, du monde de la garde.
CFM Caylus, le mag.
Vous êtes peut-être en quête de beaux cadeaux à offrir, du fait main avec de l'amour dedans. Faites le détour par Saint-Antonin à Bazarte, cette grande maison associative aux 13 rue Saint-Angèle qui propose des expositions autour du textile tout au long de l'année. Attardez-vous au café associatif et rencontrez les artistes qui ont leur atelier. Émilie Thomas, notamment, elle y est maître verrier. Portrait.
J'ai un parcours qui est peut-être pas tout à fait classique pour un métier comme le mien, puisque j'ai débuté en faisant des études universitaires d'histoire médiévale à la Sorbonne et d'histoire de l'art, d'abord à l'école du Louvre et ensuite à la Sorbonne. Et ce sont des études très théoriques, si ce n'est qu'à l'école du Louvre, on a la chance incroyable de travailler au sein même du musée du Louvre et aussi d'autres musées, et donc d'être en rapport directement avec les objets qu'on va étudier. Et j'avais toujours cru que j'étais uniquement faite pour un métier intellectuel. Moi, j'étais partie pour faire professeur-chercheur. Et à force de travailler au sein des musées, face aux objets, de les envisager dans leur matière, leur process de fabrication, dans leur histoire archéologique, muséologique, j'ai fini par avoir besoin d'intervenir au niveau de la matière. Le fait d'uniquement travailler qu'avec ma tête ne me comblait plus. J'avais l'impression que je passais à côté de quelque chose d'absolument fondamental. Et donc a commencé tout un process de recherche un peu de moi-même. Comme je faisais donc des études d'histoire de l'art, j'ai commencé timidement par envisager de faire de la restauration d'œuvres d'art. Ça me permettait d'allier la partie théorique de mes connaissances à une intervention au niveau de la matière. J'ai exploré différents médiums. J'ai d'abord un petit peu fait de restauration dans la peinture murale et les fresques. Je suis allée jeter un œil du côté du métal et de la forge. Et puis un jour, j'ai croisé le verre. Et bah, comme pour beaucoup d'artistes verriers, j'ai touché le verre du doigt, tout le bras y est passé, le reste aussi, et c'est devenu une passion. Donc, il a fallu apprendre un métier considéré comme manuel. Alors, cette définition de métier intellectuel et manuel me dérange toujours énormément parce que c'est ma tête qui fait bouger mes mains. Donc, du coup, je ne fais pas de division entre métier intellectuel et manuel, de la même façon que j'ai beaucoup de mal à faire de division entre métier d'artisanat et métier d'artiste. Je trouve qu'on met trop de frontières et qu'on met trop de cadres sur ces notions-là. Donc tout en continuant mes masters, puisque j'ai quand même bouclé un master d'histoire et un master d'histoire de l'art, eh bien, je suis allée passer un CAP vitrail au lycée Lucas Neou à Paris, que j'ai continué ensuite avec des mentions complémentaires, notamment en peinture sur verre. Et comme je voulais aussi travailler le verre à l'état de fusion, puisque dans le vitrail, on découpe le verre, on le sertit au plomb et à l'étain, mais à aucun moment on ne le chauffe réellement, sauf pour faire des cuissons de peinture sur verre, mais on n'est pas en contact avec le verre en fusion. J'ai mené des recherches auprès des techniques et des différents métiers qui travaillaient le verre dans cet état-là de fusion. Et bien sûr, tout le monde connaît le verre, ce qu'on appelle les souffleurs de verre, qu'on appelle en fait les verriers à la canne. Mais il y a une autre technique qui est un peu moins connue en France, même si elle tend à renaître de ses cendres. C'est la technique du verre à la flamme, qui est celle que j'ai adoptée. Et donc qui permet de travailler sur un chalumeau de verrier qui a une flamme qui donne jusqu'à une température jusqu'à 1200 degrés. Et donc ça permet de travailler le verre à l'état de fusion, de le sculpter, de le filer, de le souffler. Et je continue toujours mon métier de création en vitro, de restauration, de travail de verre à la flamme. Je suis également formatrice, je donne des stages, des cours. Ça va de l'initiation à la formation professionnelle. Je suis très concernée par l'aspect écologique de mon métier, qui est complexe parce que le verre a créé ses polluants. J'utilise du plomb quand je sertis le vitrail, c'est questionnant. Et du coup, je travaille beaucoup le glass upcycling. C'est l'art d'utiliser du verre qui a déjà été utilisé pour former des bouteilles, par exemple, ou du vitrage. Et très souvent, ça part en recyclage. Malheureusement, pour recycler, par exemple, une bouteille de verre, il va falloir en fait dégager plus d'énergie que pour en créer une. Donc en réalité, c'est plus polluant. Il existe deux solutions à ça, soit la consigne, mais on n'y est pas encore tout à fait en France, soit l'upcycling ou le surcyclage en français, c'est-à-dire l'art de retransformer, de donner une deuxième vie à par exemple une bouteille de verre, tout simplement en la découpant et en transformant en vase, en coquetier, en luminaire ou en l'insérant dans un vitrail.
Merci Émilie Thomas.
Avec plaisir.
Émilie a son atelier au 13 rue Saint-Angèle, à Saint-Antonin-Nobleval, à la galerie associative du Bazart. Il est conseillé d'y faire un détour pour leur marché de Noël. De nombreux artistes proposent leurs créations que vous pouvez retrouver sur lebazart.fr ou bien sur les réseaux sociaux.
I don't want to wait no more. I have seen without perceiving. I have been another man. Let me pierce the realm of glamour, so I know just what I am. I'm a dweller on the threshold. Higher. I'm a dweller on the threshold. As I cross the burning ground, let me go down to the water. Watch the great illusion turn. I'm a dweller on the threshold, and I'm waiting at the door.
CFM Keylus, Le Mag.
Fondée en 1144 par l'évêque de Rodez, l'abbaye Notre-Dame de Beaulieu dans le Tarn-et-Garonne présente les caractéristiques de l'architecture cistercienne. Nichée dans la vallée de la Seille, les bâtiments, répartis selon un plan immuable, se distinguent par un appareillage soigné, un décor simple et épuré. Abandonnée à la Révolution, l'abbaye est sauvée de la ruine dans les années 1950 par Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache. Leur collection d'œuvres d'art contemporain a orienté la vie culturelle actuelle de ce monument national. Benoît Grécourt en est administrateur.
Alors là, nous sommes dans la bibliothèque du logis abbatial, une bibliothèque qui a été nouvellement installée pour présenter les 3000 ouvrages qui ont été légués par Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache au Centre des Monuments Nationaux. Et là, on a devant nous un ouvrage formidable qui est la thèse qu'a produite Jean-Pierre Jouve, qui était un architecte et qui s'est présenté au concours d'architecte des monuments historiques en 1963 et qui avait effectué donc des recherches très poussées sur l'abbaye de Beaulieu avant qu'elle ne soit complètement restaurée par le couple Brache-Bonnefoy. Donc c'est un document très intéressant avec des photos, des plans, des relevés, et ça nous donne vraiment un aperçu très poussé de ce qu'est ce monument historique. Alors c'est intéressant de regarder cette thèse de Jean-Pierre Jouve, puisqu'elle nous donne un aperçu donc du monument dans les années 60, à la veille de travaux importants, et nous venons également de terminer une vaste campagne de travaux de restauration et d'aménagement de l'abbaye, qui est réouverte au public depuis la fin du mois de juin, et qui permet donc aux visiteurs de découvrir le monument dans son entièreté, et qui permet aux visiteurs de découvrir la collection d'œuvres d'art Brache-Bonnefoy.
Thomas Poirot, coprésident de Cistercien en Rouergue.
Alors on est dans le cœur de l'abbatiale de l'abbaye de Beaulieu, de l'église abbatiale, car c'est vraiment la tête de l'abbaye, le bâtiment qu'on voit le plus, le plus grand des bâtiments, et qui accueille les moines, la communauté de moines, lors des cérémonies qui sont quotidiennes et répétées dans la journée, et la vie d'un moine. Alors si l'abbaye c'est un lieu, c'est surtout une communauté, et c'est le lieu qui va abriter cette communauté. Si l'abbatiale, c'est l'église abbatiale, est la tête de l'abbaye, le cœur de l'abbaye, c'est le cloître. Cet espace qui va distribuer toutes les pièces et qui va assurer la circulation des moines dans leur lieu de vie. Et l'abbaye, c'est un lieu de prière, mais c'est aussi un lieu de vie. Donc on peut voir plusieurs espaces qui sont bien identifiés, comme la salle capitulaire, où tous les jours, l'abbé réunit ses moines pour lire la règle qu'on appelle le chapitre, et aussi fixer les tâches quotidiennes de la communauté et même les problèmes quotidiens qui se font jour pour chaque communauté. Au-dessus de la salle du chapitre, reliée aussi à l'abbatiale, on va avoir le dortoir des moines avec un accès facilité et direct à l'abbatiale pour les offices de nuit. Donc on le voit bien par la disposition de ces différentes pièces, on a une espèce de praticité qui est liée à la vie quotidienne des moines. Il faut qu'on puisse circuler d'un espace à un autre facilement pour vivre et faire vivre ce lieu. Le cloître, ce n'est pas un espace anodin, il a une forme particulière, il est souvent carré, car il va être à l'image de la Jérusalem céleste de l'Apocalypse de Saint Jean, un texte biblique. Et cette Jérusalem céleste, espoir peut-être, en tout cas pour les croyants, d'une résurrection, est de forme carrée, est décrite de forme carrée. Et finalement, le cloître serait la réalisation vivante, matérielle, visible, dans la vie des moines, de cette Jérusalem céleste qu'ils espèrent atteindre après leur mort. Donc vraiment, ce cloître, un espace de distribution de toutes les pièces de l'abbaye, où, à l'opposé de l'abbatiale, de l'église abbatiale, je vais avoir le réfectoire où les moines se réunissent pour prendre leur repas en silence. Devant le réfectoire, je vais avoir, lié au cloître, hein, un lavabo qui a été identifié dans les travaux de restauration qui ont été menés à l'abbaye de Beaulieu par des prospections géophysiques. On a pu identifier l'emplacement du lavabo qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent et donc qui est bien à proximité de ce réfectoire.
Alors, l'une des spécificités de l'église abbatiale de Beaulieu, c'est qu'elle a conservé ses piscines eucharistiques, ses piscines liturgiques, dans lesquelles les moines procédaient au rituel de la purification. Et donc, ce sont des niches qui sont pratiquées dans l'épaisseur du mur, avec donc des trous d'évacuation pour l'eau.
Alors, donc là, l'église abbatiale réunit la communauté. Les communautés cisterciennes sont doubles. Il y a les moines de chœur, qui sont les moines qui ont porté, qui ont prononcé les vœux principaux, et donc qui sont dans la partie la plus proche du chœur. Parmi ces moines de chœur, on a des prêtres qui, eux, vont pouvoir dire la messe, mais tous les moines de chœur ne sont pas prêtres. Et vers l'ouest, donc derrière les moines de chœur, on va avoir les moines convers, qui sont des moines qui ont prononcé des vœux, mais qui ne sont pas les vœux des moines de chœur, qui ont une vie monastique, mais qui ont une vie monastique tournée aussi vers le travail. Ils doivent assurer, en complément et en appui des moines de chœur, la survie et la vie matérielle de la communauté. Donc cette communauté, avec deux types de vœux différents, sont réunis et forment communauté dans l'abbatiale. C'est pour ça que c'est un lieu très 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 important. Et on le voit à travers l'architecture même, car on a des piscines liturgiques qui sont situées dans le chœur, mais on a aussi des piscines liturgiques qui sont dans la nef. Celle qui était dans le chœur était réservée aux moines de chœur, et celle qui était dans la nef était destinée aux moines convers. Donc l'architecture même du lieu, ben, finalement, nous montre encore, témoigne d'une dernière trace de cette division des groupes de moines au sein de l'abbaye de Beaulieu. Alors finalement, baladons-nous, rentrons dans cette abbatiale et mettons-nous dans la peau d'un moine convers. Lors d'un office, les moines convers, on va prendre un office de nuit, descendent l'escalier des matines, descendent du réfectoire, escalier qui a été rouvert et réinterprété lors des travaux de restauration de l'abbaye de Beaulieu, et nous atterrissons dans un bras du transept. Ce qui va permettre aux moines de regagner leur stalle, leur siège dans la première partie de la nef, et de suivre l'office qui se tient dans le chœur face à eux. Ce chœur qui est orienté à l'est et qui est orienté d'une façon bien précise, hein, il prend en compte le relief que l'on a à l'est et il prend l'axe du solstice d'été du 21 juin. Et donc le soleil se lève le 21 juin dans l'axe de la nef. L'orientation de la nef n'est pas le hasard, elle est faite par une. Elle n'est pas tout à fait orientée, elle n'est pas plein est, elle est orientée par rapport finalement l'entrée du soleil le 21 juin, en tenant compte du relief de la vallée de la Seille et donc de l'abbaye de Beaulieu. Un peu plus loin dans la nef, on va avoir donc ce vaste espace qui va pouvoir permettre d'accueillir les moines. Très peu de fidèles. Alors il arrive que des laïcs viennent à l'abbaye, mais ceux-là sont relégués vraiment le plus à l'ouest. L'abbaye de Beaulieu que vous pourrez découvrir et son abbatiale que vous pourrez découvrir accorde une très large part à la lumière. Vous le verrez, hein, même lors d'un temps gris, il y a une lumière très très particulière. Et la lumière fait partie de la scénographie liturgique, fait partie du décorum, car elle matérialise pour les moines, hein, la présence de Dieu qui vient via la lumière, mais finalement les inspirer dans leurs offices.
L'ensemble des façades de l'abbaye a été nettoyé à l'aide de brosses. On a souhaité que les entreprises fassent cela à la main pour garder la patine du temps et non pas avoir une pierre rutilante et blanche. Donc on a vraiment pris soin de garder cette patine du temps sur la pierre qui est une empreinte de son histoire.
Alors, la question de la fondation de l'abbaye de Beaulieu est un vaste chantier historique. On a une date traditionnelle de 1144, mais les bâtiments que vous pourrez venir découvrir à Beaulieu ne datent pas de 1144. Notamment pour l'église abbatiale, on sait que ce n'est pas la première abbatiale qui a été construite par les premiers moines à la mi-12e siècle. On est au moins dans un deuxième temps, sans doute à la fin du 13e siècle ou au début du 14e siècle. C'est pour cela que vous le verrez, hein, l'abbatiale est d'inspiration gothique et non pas romane, comme était sans doute la première abbatiale qui a été construite, dont on n'a pas de traces. Simplement, on peut penser, par rapport aux autres abbayes et aux autres églises abbatiales que l'on a dans d'autres sites cisterciens, que la première église abbatiale à Beaulieu avait un chevet, c'est-à-dire la partie orientée à l'est, hein, un chevet plat et carré, alors que vous verrez aujourd'hui qu'il est hémicirculaire.
Vous entendiez Thomas Poirot, coprésident de Cistercien en Rouergue, pour cette visite architecturale de l'abbaye de Beaulieu, monument national ouvert bien sûr pour ses vacances. Vous pourrez aussi découvrir une immense collection d'œuvres d'art moderne et participer à des ateliers qui sont proposés et dont vous pouvez retrouver le détail sur le site de l'abbaye de Beaulieu en Rouergue, monument national qui valait le détour. Ce mag est lui à retrouver en podcast sur le site de CFM Radio et il sera, comme de coutume, rediffusé à 17h. Ainsi qu'à 21h. Restez sur CFM, c'est les infos.